à tous et bienvenue autour de cette grande table du lundi. À un mois de l'élection présidentielle américaine, des idées avec la spécialiste des questions de race et de classe aux États-Unis, Sylvie Laurent. Le pauvre petit blanc, une fiction américaine. Donald Trump en a fait son fonds de commerce électoral. Dans son nouvel essai, l'historienne revient sur cette rhétorique victimaire. Mais d'abord, en duo, il sort un nouvel album, New York Cannibals, avec François Bouc au Lombard. La BD à peine sortie est déjà en tête des ventes. Et puis en solo, il revient avec un roman, Avis de grand froid, traduit par Marc Chénetier chez Rivage. Ce 12e autour de la figure d'Isaac Seidel, le flic du Bronx, qui vient clore sa série. Le romancier américain Jérôme Charine est notre invité. À écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Gesbert.
L'enfant du Bronx a aujourd'hui 83 ans, écrivain cinéphile à la tête d'une œuvre embarquée dans les bas-fonds de New York où son frère, inspecteur à la brigade criminelle, l'a, il y a longtemps, infiltré. Une ville qu'il connaît sur le bout des doigts, peut-être un peu comme le Cujat de sa BD, New York Cannibals, qui affirme « Mes mains sont peut-être sales, mais elles connaissent cette ville sur le bout de leurs ongles ». Bonjour Jérôme Charine.
Bonjour Lucia.
Merci à vous d'être avec nous et bonjour à votre voix française, Robert Wolfenstein. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à distance, Jérôme Charine. Je ne peux pas voir vos mains, mais j'imagine le bout de vos doigts noirci par l'encre, comme un écrivain américain en somme. Hein. Est-ce que vous écrivez en ce moment, Jérôme Charine?
J'ai terminé un roman sur Rita Hayworth et Orson Welles.
Et maintenant, je vais me lancer dans l'écriture d'un autre roman. Mais il faut bien comprendre que le monde n'existe plus.
Donc,
ce qu'on est obligé de faire, c'est d'aller au plus profond de soi-même pour rester sain d'esprit.
Et c'est pas facile.
Dans la préface de ce nouveau roman, de ce nouvel opus de la série Isaac Seidel,
oui,
vous précisez que ce personnage de roman noir qui vous suit depuis 1975, qui vous suit depuis Blue Eyes, Isaac Seidel,
oui,
qui a eu le droit, lui, d'office à sa tétralogie dès les débuts, le Isaac Quartet, et qui n'a jamais vraiment été au repos depuis, puisqu'il revient donc aujourd'hui pour de nouvelles aventures qui vont le conduire très loin, enfin très haut plutôt, puisqu'il finira à la Maison Blanche. Vous écrivez que Isaac Seidel est un personnage de roman noir dans le grand roman noir du monde et que ce monde restera toujours ainsi. On entend votre pessimisme et votre sentiment d'un monde qui n'évoluera plus. Vous avez perdu tout espoir.
Oui, nous sommes vivants morts. We're living dead people.
Mais oui, nous sommes des morts vivants.
And it's really very difficult to survive.
Il est assez difficile, même très difficile de survivre, et très difficile de se lever le matin.
Because we live in a world of de chaos.
Parce que nous vivons dans un monde chaotique.
Chaque jour, c'est pire et pire.
On parlait de New York pour vous et de l'importance de cette ville dans votre œuvre.
Oui, j'habite entre le Bronx et le 14e arrondissement.
Parce que je rêve de Paris quand je suis à New York.
And I think New York is still a great city.
New York est toujours une ville formidable. Mais malheureusement, tout comme le reste du monde, il y a un fossé immense entre les riches et les pauvres, et c'est ce qui nous tue.
Je vous propose d'écouter les mots de Don DeLillo parlant du New York de Paul Auster.
Oui. Le New York de Paul Auster, c'est, par exemple, dans The Country of the Last Things, une sorte de New York survolté. C'est la ville post-apocalyptique. C'est une version du New York contemporain. La trilogie new-yorkaise, à un niveau, c'est un endroit assez réaliste, mais à un autre niveau, il faut bien voir que tout se passe dans un espace littéraire, dans un espace psychologique. C'est un lieu qui est imbriqué dans un système de narration d'histoire.
Votre New York aussi, Jérôme Charine, on pourrait en parler comme d'un lieu imbriqué dans un système de narration d'histoire. Mais comment vous le qualifiez, votre New York littéraire? Est-ce qu'il est le reflet de vos livres, de vos histoires? Est-ce que vous diriez que votre New York littéraire est sombre et codifié?
Yes, c'est très sombre, but it was not always that way. Quand j'ai grandi, tout c'est possible. J'étais très très pauvre. My father, il est très cinglé. Il jamais travaille. And I was still able to get.
Mais malgré tout, j'ai réussi à avoir la meilleure éducation possible.
And it's we could no longer do, we could no longer.
Et ça, ça n'est plus possible aujourd'hui. Je suis allé à Columbia, l'université de Columbia. Aujourd'hui, ça coûterait une fortune. Un gamin d'un milieu pauvre n'aurait jamais aujourd'hui les moyens de s'inscrire à cette université. Et alors, quand j'étais gamin, on passait notre temps à lire des bouquins. Et grâce à cette éducation, on pouvait vraiment conquérir le monde.
Maintenant, c'est pas possible. We don't understand the world, we can't read.
Et alors, de ce fait, on ne comprend plus le monde, on n'arrive pas à le lire, et de fait, on est quasiment invisible. Nous devenons de plus en plus invisibles, jour après jour. Et c'est la raison pour laquelle je voulais que mon personnage d'Isaac se retrouve à la Maison Blanche.
Pour qu'il change le monde?
Oui, il est dans Quichotte avec le Glock, but he can't.
Pour autant, il ne peut pas changer grand-chose.
Il joue, il triche, il does what he can.
Il fait ce qu'il peut.
But he dances
mais il danse dans la Maison Blanche.
And because I love Kafka,
et parce que j'adore Kafka, j'envoie mon Isaac en Tchécoslovaquie.
Oui, il est tout ça, votre héros, Jérôme Charine, à la fois fantomas, à la fois inspiré, vous le racontez, oui, par les films de Quentin Tarantino.
Absolument.
Et il a cette part de Don Quichotte en lui. Hein. Vous l'écrivez dans le roman, c'est un Don Quichotte en armure, comme Isaac avec son gilet pare-balles. Un Don Quichotte avec un Glock en guise de lance. Hein. Voilà pour cette description. Et dans votre préface de Avis de grand froid, votre nouveau roman, qui vient clore cette saga, Isaac Seidel, vous dites lui avoir légué la tristesse rien moins que cosmique de votre enfance, ce sont vos mots, au sein d'une modeste famille juive d'origine russo-polonaise. Vous êtes, on l'entend tous les deux passer, des marges au centre, Jérôme Charine, sans perdre votre intégrité. Comme votre héros, vous, Jérôme Charine, vous êtes resté un écrivain incorruptible.
Yes, c'était pas facile parce que
Parce que voilà, j'avais eu droit à une éducation exceptionnelle et j'ai pu comprendre que le fait d'être écrivain n'avait rien à voir avec la richesse ou la célébrité, c'était un apprentissage. Il fallait apprendre à jouer avec les mots, de même qu'un cordonnier apprend à faire des chaussures.
J'ai maintenant 83 ans et ça reste le même apprentissage. You are always an apprentice.
On passe son temps à apprendre et c'est très important.
Quand votre univers croise celui de Book, l'auteur français et dessinateur, ça donne La femme du magicien, Bouche du diable, Little Tulip et aujourd'hui New York Cannibals. New York, 1990, c'est le décor de cette nouvelle bande dessinée, de ce nouvel album. C'est une suite de Little Tulip, 20 ans après. Votre héros tatoueur, Pavel, a vieilli. Alors il est toujours tatoueur, mais l'héroïne de ce nouvel opus, c'est Azami, sa protégée, devenue policière et culturiste. Elle va remonter aux sources d'un trafic d'enfants après avoir découvert un bébé dans une poubelle. Elle va croiser, entre autres, en route, un gang de femmes cannibales. Un mot sur ce Pavel qui revient dans cette bande dessinée, tout comme Victor Danzig dans le roman « Avis de grand froid ». Hein, ils ont en commun cette pratique du tatouage, Jérôme Charine.
Tatouage,
ouais.
Oui.
Votre personnage de Victor Danzig, c'est un Rembrandt, hein, vous le dites, un tatoueur emblématique, un graveur, un faussaire redouté. Pourquoi?
Exactement.
Mais d'abord, effectivement, c'est François Bouc qui m'a fait découvrir cette idée de tatouage. Alors, à l'époque, je me rappelle que j'étais sur Little Tulip et sur Avis de Grand Foy, je travaillais sur les deux.
Il écrit l'histoire du monde dans le corps. So he really writes
et donc, le tatoueur écrit un roman sur le corps de ses sujets. Et pour moi, c'était une image très puissante parce que moi, je voulais être artiste. J'adore dessiner.
J'ai aucun talent. I didn't have any talent. So when I saw
donc, sans talent, lorsque j'ai vu les dessins de Bouc, et Bouc, c'est une espèce de Michel-Ange. Et quand il a dessiné mon personnage d'Azami recouverte de tatouages, je me suis dit que c'était un petit peu moi-même qui était là. Hein. C'est ça le plaisir de travailler dans une bande dessinée, même si je ne suis pas moi-même l'artiste, l'art lui-même, je me l'approprie.
Le bistouri du tatoueur qui écrit des histoires sur les peaux, comme le stylo de l'écrivain sur la page, voilà qui évoque aussi ce qu'en disent les personnages des Promesses de l'ombre de David Cronenberg avec Viggo Mortensen, Naomi Watts et Vincent Cassel.
We think he might be Russian mafia.
On pense qu'il faisait partie de la mafia russe.
And he was a member of Vorev Zakonia. Stars on his knees means he'd never kneeled before.
Oui, c'était un membre des Vorev Zakonia. L'étoile sur le genou indique qu'il ne s'est jamais mis à genoux devant personne.
In Russian prisons, your life story is written on your body.
Dans les prisons russes,
and tattoos.
Toute votre vie est tatouée sur votre corps.
If you don't have tattoos, you don't exist. This one was a captain.
Si vous n'avez pas de tatouage, vous n'existez pas.
And he's been professionally processed.
Cet homme était un capitaine. Et ils ont effacé toute marque d'identification.
Voilà, comme vous l'évoquiez, Jérôme Charine, ces histoires sur la peau des personnages. Hein.
Oui, c'est un très grand film. J'aime beaucoup ce film. I cried after
Moi, j'ai pleuré à la fin du film. Parce que tout ce monde du tatouage est un monde extrêmement puissant. Pour moi, elle évoque beaucoup de choses. Ces gangsters russes avec qui inscrivent l'histoire de leur vie sur leur corps à travers ces tatouages. Pour moi, c'est une forme de langage très puissant. Hein. Ce langage est plus puissant que le monde lui-même. Hein. C'est le langage qui est le monde et pour moi, le tatouage.
C'est très, très important.
Est-ce qu'on retrouve dans ce goût que vous avez pour le tatouage, pour cet univers à la fois violent, mais qui a ses codes, la même passion que vous avez pour la langue? Votre langue à vous,
oui.
Elle est née, elle a été nourrie du langage de la rue avant d'être nourrie,
oui,
par la langue des grands écrivains, de Joyce à Kafka à Faulkner. Est-ce que c'est ce qui vous plaît dans la langue? Une langue qui peut être à la fois sauvage, violente, chaotique, et qui en même temps sait répondre à une sorte de code de l'honneur.
Oui, vous avez raison. But it's like playing a musical instrument.
Et voyez-vous, c'est un peu comme lorsqu'on joue d'un instrument de musique.
C'est sauvage, c'est gentil, and this is why I love words and also the
l'instrument est tel que il donne tout, c'est pour ça que j'aime les mots et que pour moi, les objets du tatouage, les expressions du tatouage sont les mots. C'est vrai que j'ai grandi dans la rue, j'ai lu, lorsque j'ai découvert Joyce, ce qui m'a surtout frappé, c'était la musicalité de ses phrases.
Je cherche la musique et j'ai trouvé la musique dans les images de François Bouc. Et pour moi, it's a great pleasure.
Pour moi, c'est un immense plaisir à voir ce qu'il est capable de faire à partir de cette notion simple du tatouage. À partir de là, il arrive à faire des choses extraordinaires. C'est la raison pour laquelle je pleure en lisant ses romans graphiques, même si je n'en suis que l'auteur, enfin, que le scénariste, sans être l'artiste. Mais l'art du dessin dans mon fort intérieur, comment expliquer ? C'est comme si moi-même j'avais dessiné ces romans graphiques.
D'où votre idée, votre envie, même si l'épidémie a suspendu le projet pour l'instant, d'adapter la saga Isaac Seidel en animation plutôt qu'en prise de vue réelle. Vous pensez, comme Pavel, votre tatoueur dans la bande dessinée, que le dessin a des vertus magiques ?
Yes, c'est vraiment magique,
Oui, et ce que nous espérons faire, c'est faire un film d'animation basé sur les romans d'Isaac Seidel. Alors c'est vrai qu'en raison du Covid, nous n'avons pas pu travailler sur ce projet jusqu'à présent, mais bientôt, j'espère, nous pourrons le faire. Et justement, moi, j'approfondirai cette histoire de tatouage parce que c'est, encore une fois, c'est l'un des langages les plus puissants dont nous disposions. Il faut bien se rappeler qu'on a affaire à des repris de justice, à des hommes et des femmes perdus. Et c'est ça leur cri de guerre, hein, c'est l'histoire de leur vie sur leur corps.
C'est très violent. But one actor once told me,
vous avez beaucoup de violence, mais comme me l'a dit un acteur, la violence peut être également poétique.
I think there's a poesy dans la violence.
Votre policier, il est intègre et lettré, il est très cultivé. Il va partir, vous l'évoquez, sur les traces de Kafka en Europe de l'Est. On a l'impression qu'un seul président dans l'histoire des États-Unis trouve un peu grâce à vos yeux, a pu vous servir aussi de modèle pour ce héros. Et c'est Lincoln à qui vous avez consacré une vraie fausse biographie, un roman, « Moi, Abraham », paru chez Rivage en France, où vous avez réinventé sa légende. Lincoln, pourquoi est-ce qu'il vous fascine tant ? Est-ce que c'est pas d'abord, là encore, une histoire de langue ? Lincoln, un maître de la langue.
Well, Lincoln was the greatest, the two greatest.
Abraham Lincoln était l'un des deux grands présidents des États-Unis. Vous aviez donc Lincoln au 19e siècle, et puis Malcolm X au 20e siècle était également un personnage très important. Ils sont très différents, mais tous les deux venaient d'origine extrêmement pauvre, extrêmement modeste. L'un et l'autre étaient des gens véritablement altruistes qui, l'un et l'autre, comprenaient bien que le monde devait changer. Et il leur a fallu à l'un et à l'autre beaucoup de temps pour s'éduquer eux-mêmes, pour ensuite pouvoir à leur tour changer le monde. Or, Abraham Lincoln n'a pas simplement été un grand président, mais il a également été un grand écrivain. Lorsqu'il parlait des anges que nous devons trouver au fond de nous-mêmes pour nous dépasser et redécouvrir le monde, eh bien, en même temps, Malcolm X, à sa façon, recherchait les mêmes anges sans pour autant les trouver, et l'un et l'autre sont morts de façon très brutale.
Là, vous lui prêtez vos mots, votre phrasé virtuose, Jérôme Charine, à ce 16e président des États-Unis. Est-ce que vous diriez que si Lincoln était un maître des mots, l'actuel président américain est au contraire le président qui a le plus abîmé le langage?
C'est pas vraiment vrai, parce que when he makes his tweets,
non, parce que lorsqu'il écrit ses tweets, le président Trump a son propre langage à lui. Alors, je n'adhère pas, je n'y crois pas, mais il a certainement maîtrisé l'art du tweet.
Mais c'est très puissant.
On va écouter les mots maintenant d'un historien, William Freeling, spécialiste de la guerre de sécession, nous dire en quoi, comme vous l'évoquiez, Jérôme Charine, il reste un président à part.
Lincoln semble incarner la déclaration d'indépendance. La notion selon laquelle les hommes ont été créés égaux. La tentative de l'Amérique qui a mis beaucoup de temps à réaliser les idéaux de la Révolution. Par exemple, que les hommes et les femmes ont été créés égaux. Certains de ces idéaux devinrent réalité dans la vie quotidienne. Et les gens l'admirent pour cela. Ce n'est pas seulement parce qu'il a fait, mais il y a aussi ce qu'il a dit et la manière dont il l'a dit. Il est un bel auteur, spécialement dans ses courts discours solennels, comme le discours de Gettysburg ou le discours inaugural pour son second mandat. Il est un maître de la langue, qui est toujours chez lui extraordinaire. Aucun autre président n'a maîtrisé la langue américaine comme Lincoln l'a fait.
France Culture. La Grande Table, Olivia Gesbert.
Naître libre et égaux, Jérôme Charine, où en est-on aujourd'hui de cette promesse aux États-Unis?
Ah, ça c'est très difficile à dire. We face an election that
en effet, nous approchons d'une élection dont l'issue est incertaine. Nous ne pouvons qu'espérer. Mais nous sommes à l'aube d'une guerre civile soft. Vous avez deux nations au sein d'une même nation, alors je ne sais pas quand cette guerre éclatera, mais tout ce que j'espère, c'est que nous surmonterons, parce que sinon nous ne serons plus une nation. Ce sera la fin des États-Unis à ce moment-là.
Violence de la rue dans vos romans, violence politique. Une fois encore, cette campagne présidentielle a montré une sorte d'équivalence des formes. Hein. Elle a renforcé les clivages entre les nationalistes d'un côté, les anticapitalistes de l'autre, les afro-américains d'un côté, les américains blancs de l'autre.
Oui.
Hein, on a l'impression vraiment d'une Amérique qui est particulièrement divisée aujourd'hui. Hein.
Oui, mais il faut bien voir que ça a toujours été le cas. Regardez le mouvement Black Lives Matter. En fait, on se rend compte que, disons pour beaucoup d'Afro-Américains, ils se sont sentis un petit peu les hommes invisibles de l'Amérique depuis plus de 200 ans. Hein. Ils sont invisibles et ils voudraient ne plus l'être. Ils veulent être vus comme en tant qu'êtres humains. Et c'est vrai que pendant toutes ces années, nous avons vécu des années de loisirs. Après la Deuxième Guerre mondiale, nous avons triomphé. Mais pourtant, les Noirs restaient invisibles dans la société américaine. Alors, il y a toutes sortes de variations sur le même thème, c'est-à-dire qu'on a affaire à des gens qui doivent se redécouvrir, se retrouver, mais ils ne peuvent le faire dans la situation actuelle. Ce qu'il nous faut, c'est un nouveau monde en Amérique, une nouvelle donne.
Quelle correspondance des formes entre votre ville, New York, et la Maison Blanche, où votre personnage, Isaac Seidel, va finir sa vie littéraire, puisque c'est là que vous l'amenez dans ce dernier opus. Est-ce que vous avez le sentiment de deux univers aussi labyrinthiques l'un que l'autre, qui ressemblent à des labyrinthes?
Oui, c'est vrai que la Maison Blanche est en effet un labyrinthe. Et l'exercice d'écriture est un labyrinthe. Ma propre vie est un labyrinthe. Et puis, effectivement, l'Amérique est un grand labyrinthe. Alors, nous essayons de sortir en rampant de ce labyrinthe. Je ne sais pas ce qui arrivera à Isaac Seidel. Ce sera peut-être un Don Quichotte avec son Glock, mais moi, je n'ai pas de Glock. Je n'ai que les mots, je n'ai que le stylo. Et je me sens un petit peu impuissant. Parce que ça n'est pas le langage, le mot écrit qui va changer le monde. Or, c'était le rêve des écrivains. Lorsqu'on écrit un roman, certes, on veut apporter un plaisir au lecteur, mais en même temps, ce qu'on essaie de faire, c'est de traiter de toutes les complexités du monde et d'apporter une réponse. Or, aujourd'hui, plus personne n'entend notre voix. Le monde est devenu sourd.
Mais vous incarnez comme votre héros une forme d'idéalisme oui. À la tête des États-Unis. Hein. Vous aviez envie de ça, d'un président qui puisse quand même être comparé à un Robin des Bois. Lui, il va rester orphelin, ou il va continuer à se conduire en orphelin, écrivez-vous, même s'il a gravi les échelons, même s'il est passé de chef de la police à maire, à président, il garde de ce regard plein d'une tristesse caractéristique. Et là, on vous entend une fois encore parler de vous-même. Dans ce grand labyrinthe, votre fil, c'est l'écriture. Est-ce que vous cherchez encore la porte de sortie?
Oui, la porte de sortie.
Si on arrive à sortir du labyrinthe, l'écriture n'a plus d'intérêt. Hein. Quand on commence un roman, on sombre parce qu'il faut donner toute son énergie. Et ma chérie, qui est à côté de moi depuis des années, me dit que je ne m'occupe plus du tout ni d'elle ni de notre chat, parce qu'il faut tout donner toute son énergie lorsque l'on écrit un roman. Il faut se plonger complètement dans ce labyrinthe. Or, ce qu'on espère, c'est qu'à l'issue, les lecteurs sauront aimer le livre et qu'ils apprendront quelque chose. Mon Isaac Seidel dans la Maison Blanche, lorsque je le compare à Abraham Lincoln, bon, évidemment, c'est un grand homme, un grand modèle, mais ce qu'on essaie de faire, c'est de comprendre ici que nous avons eu droit à un grand président qui était issu d'une extrême pauvreté, qui a réussi à s'instruire lui-même. C'est un autodidacte qui a pu surmonter son propre racisme en découvrant la réalité du racisme. Il a voulu aider le monde d'une manière dont aucun autre président a réussi à le faire. Et le discours de Gettysburg est relativement bref, et en ces quelques mots, il a redécouvert le sens de l'Amérique et ce qu'il nous fallait changer.
Voilà, Isaac, c'est un orphelin dans son propre palais, un proscrit comme le roi Lear, avec son essaim venimeux de filles et de fils. Le voilà donc coincé dans ce dernier opus, dans sa grande prison blanche, c'est ainsi que vous qualifiez la Maison Blanche. On verra qui sera le prochain locataire de cette maison pour les 5 prochaines années, pas dans vos fictions, Jérôme Charine, mais dans la réalité. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Merci d'avoir passé cette demi-heure pour discuter de la vie américaine et de vos 2 derniers opus. Un roman, Avis de grand froid, qui paraît donc chez Rivage Noir. Dernier tome de votre saga consacrée à Isaac Seidel. Et cette bande dessinée que vous co-signez avec François Bouc, New York Cannibals, c'est au Lombard. Merci Jérôme Charine.
Merci Olivier. Au revoir.